L'avant-match avec Jeannal Bouzrara.
Bienvenue les amis dans cette nouvelle édition de l'avant-match. Nous sommes ensemble bien entendu pour débriefer un petit peu cette soirée de Ligue des Champions. Double soirée avec bien sûr des internationaux marocains qui se sont illustrés, notamment bien sûr Achraf Hakimi, auteur d'un doublé avec le Borussia Dortmund, vainqueur de l'équipe de l'Inter de Milan, 3-2, ou encore Hakim Ziyech, stratosphérique avec son club l'Ajax Amsterdam lors de son match nul ramené bien entendu de Stamford Bridge face à Chelsea. On accueille tout d'abord notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Hermel. Bonsoir Fred.
Bonsoir Jalal, bonsoir à tous.
Avec nous également, celui qui suit pour nous la première ligue anglaise et les clubs anglais engagés dans les compétitions européennes, Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, salut Fred, salut à tous.
Alors Aurélien, on va commencer par toi bien entendu avec ce match complètement fou entre Chelsea et l'Ajax Amsterdam, comme je le disais dès l'entame de cette édition de l'avant-match, avec un Hakim Ziyech des grands soirs. Et on se demande vraiment, on se pose la question, comment ça se fait qu'aucun grand club, qu'aucun du top 5 européen ne s'intéresse pas, ne s'est pas intéressé à un joueur aussi talentueux, aussi décisif, aussi Hakim Ziyech, et un joueur qui est en train d'aligner les performances depuis deux saisons maintenant au plus haut niveau en Ligue des Champions.
Oui, c'est sûr que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Après, je pense que il a aussi un petit peu pâti par le passé d'une réputation qui n'était pas très bonne et qui est, je pense, pas forcément méritée. Et je pense que ça a joué sur le fait que des gros clubs sont pas forcément venus le chercher plus tôt. Je pense que là, s'il continue à réaliser ce qu'il fait depuis une saison et demie en Ligue des Champions, je vois pas comment l'Ajax va pouvoir le garder une saison supplémentaire. Il a pas réellement voulu partir à l'intersaison, hein, faut le rappeler quand même, hein. Il a pas non plus cédé aux sirènes de gros salaires en Angleterre, alors pas forcément dans les top clubs, mais en tout cas il y a eu des marques d'intérêt de clubs quand même assez importants. Bon voilà, c'est un joueur qui a tellement de talent et tellement de capacités que il peut pas, je pense, se contenter d'aller dans un club de très bon niveau. Il lui faudrait vraiment un club de top niveau. Et pour les clubs de top niveau, peut-être qu'il y a encore peut-être des réticences sur sa capacité à être tout le temps régulier, à bien s'intégrer dans une équipe. Mais je vois pas ce qui, là, aujourd'hui, pourrait encore le bloquer.
Mais là, justement, on a vu son point faible, c'était cette régularité qui lui manquait. Et aujourd'hui, franchement, on peut difficilement dire que Hakim Ziyech n'est pas régulier. On l'a annoncé un petit peu du côté de ta première ligue, Arsenal ou Tottenham, par exemple. Est-ce que, je pense pas que ça soit le salaire ni le montant du transfert. On parlait d'une valeur autour de 30 millions d'euros.
Voilà, non, c'est pas un problème de prix, c'est pas un problème de salaire. Je pense que pour Arsenal, par exemple, un joueur comme Ziyech, c'est un joueur qui serait très précieux pour une équipe d'Arsenal. Mais Arsenal a pas réussi à vendre Ozil l'été dernier, et c'est un petit peu le même type de joueur, et c'est un petit peu aussi les mêmes inquiétudes que peut susciter Ziyech par rapport à Ozil, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut être décisif en un dixième de seconde, et on l'a vu encore contre Chelsea avec cette frappe directe magnifique qui trompe le gardien de Chelsea, Kepa. Mais je pense que les dirigeants d'Arsenal, voilà, ont eu, comment dire, en Angleterre, un peu les cold feet, les pieds froids. Ils se sont dit, bon, si Ozil part, pourquoi pas, mais si on n'arrive pas à le faire partir, bon, bah, Ziyech, on attendra. Je pense que, très sincèrement, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que je crois pas en effet que ça soit un problème de coût. Après, encore une fois, c'est ce que je te disais, Jalal, je pense que aussi pour Ziyech, il y a une ambition, et que Arsenal, c'est pas forcément le club qui correspond à ses ambitions.
Voilà, effectivement, hein, je pense que Ziyech, et il a déclaré, il a dit, si jamais je n'ai pas une offre d'un club qui m'intéresse vraiment, ben je préfère rester du côté de l'Ajax Amsterdam. On va revenir en Espagne, retrouver Fred Hermel. Ben, ça va beaucoup mieux pour le Real Madrid, avec un triplé en Ligue des Champions à seulement 18 ans, crevant l'écran, le jeune Brésilien Rodrigo a guidé le Real vers une victoire 6-0. Le Real qui va mieux, le Real qui se relance, Fred.
Oui, c'est vrai que le Real Madrid va beaucoup mieux, hein. C'est clair que j'étais bien entendu au stade Santiago Bernabéu mercredi soir, 6-0 contre Galatasaray, et dire qu'il y a deux semaines, Zidane était à deux doigts de la porte, et que 15 jours plus tard, ben, tout le monde l'applaudit et trouve qu'il a été très valeureux de donner sa confiance au jeune Rodrigo, auteur de 3 buts, hein, d'un triplé et d'une passe décisive pour Karim Benzema. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Je peux vous assurer que Zizou était très souriant ce mercredi soir après la victoire. Il faudra confirmer maintenant, parce qu'il y a une rencontre très difficile demain à Eibar, où le Real avait perdu 3-0 la saison dernière. Donc il faut maintenir le niveau. Et ce qu'il y a d'intéressant, hein, dans ce match contre Galatasaray, et j'en ai parlé avec Zizou derrière, c'est que le Real menait 3-0 au bout d'un quart d'heure, mais ils ont continué à aller à fond jusqu'à la fin de la rencontre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas relâché la tension, comme ça arrive si souvent quand ils mènent en deuxième période. Donc il n'y a eu aucune chance pour Galatasaray de mettre simplement un petit but. Le fait que Rodrigo marque dans le temps additionnel, alors que Benzema juste avant la fin du match aussi, enfin, montre qu'ils ont poussé jusqu'au bout. Alors c'est vrai, quand on parle de Rodrigo, on se dit qu'une étoile est née, ça c'est clair, parce que ce gamin de 18 ans, il est fabuleux. On aura l'occasion d'en reparler très souvent, alors que Karim Benzema, lui, est entré un peu plus dans la légende du Real Madrid, puisqu'il a dépassé en nombre de buts marqués en Europe sous le maillot blanc un certain Alfredo Di Stefano, avec son 49e et 50e but. Karim Benzema, ben voilà, est aujourd'hui, recueille aujourd'hui les applaudissements de tout le monde. Dieu sait si ça a été difficile, parce que pendant 8-9 ans, il a dû prouver à chaque fois qu'il était le meilleur. Et là, aujourd'hui, plus personne n'est là pour le critiquer.
Voilà donc pour le Real Madrid. Fred, en revanche, rien ne va plus, hein, pour le FC Barcelone. Après une série de 7 victoires en 7 matchs entre le 24 septembre et le 29 octobre, le Barça, qui a montré d'inhabituels signes de fébrilité, commence le mois de novembre par un véritable cauchemar. Une lourde défaite contre Levante 3-1, et puis un piètre match nul en Ligue des Champions devant ses supporters contre le club du Slavia Prague.
Oui, Jalal, c'est vraiment les vases communicants, quoi, parce que d'un côté, on a un Real qui sourit, et de l'autre, le Barça qui fait grise mine. Sincèrement, je pense que aucun supporter du FC Barcelone n'a pu être satisfait après le match minable, on peut le dire comme ça, ce 0-0 contre le Slavia de Prague. Il y a 15 jours, lors du match aller, on avait vu une équipe du Barça qui s'en était sortie très très bien en République tchèque, voilà, avec une victoire qui n'était pas du tout méritée. Encore une fois, le merveilleux gardien qui était Ter Stegen avait tout fait pour éviter une défaite du Barça. Mais c'est le visage de cette équipe sans idée qu'on a encore vu mardi en Ligue des Champions. Le Barça ne va pas bien. Quand Messi n'a pas le coup de génie, derrière, ça ne suit pas. Et on sait que Suarez est blessé. Et puis on voit que, et là on aura souvent l'occasion d'en reparler, le problème Griezmann non seulement ne se résout pas, mais on a l'impression qu'il s'accentue. Griezmann ne trouve pas ses partenaires, les partenaires ne cherchent pas Griezmann, il fait ce qu'il peut, mais on sent qu'il est complètement perdu dans le jeu du Barça. C'est encore plus difficile que prévu pour lui de s'adapter à un jeu totalement différent de la tactique habituelle chez l'Atlético de Madrid. Donc cette équipe du Barça ne semble pas faite pour l'instant pour Griezmann. Ou plutôt, Griezmann ne semble pas fait pour le Barça. De la même manière que Zidane était menacé il y a 15 jours, aujourd'hui c'est Valverde. On parle de Koeman pour le mois de décembre, on parle aussi de Gallardo, hein, l'entraîneur argentin. Voilà, ce sont des rumeurs qui flottent au-dessus de la tête de Valverde. Ça fait un moment que ça dure. Voilà, je pense qu'on peut quand même être un petit peu inquiet pour ce Barça qui... On avait le sentiment avait lancé sa saison. Eh ben non, parce que c'est pas simplement le problème de marquer ou pas marquer, c'est que on a la sensation qu'il n'y a pas de jeu collectif aujourd'hui dans le Barça et qu'ils ne dépendent que de Messi, des buts de Messi, des exploits de Messi et bien entendu des arrêts de Ter Stegen.
Donc Messi et Ter Stegen pour sauver ce Barça. L'Atlético, lui, del Cholo Simeone, est également en difficulté, mon cher Fred. L'Atlético battu et surpris à Leverkusen de Buzyn et qui devra attendre pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La Juve, elle, est déjà qualifiée.
Autre équipe qui ne va pas bien du côté de l'Espagne, c'est bien entendu l'Atlético. Cette défaite à Leverkusen contre le Bayern 2-1 était totalement méritée. C'est-à-dire que cette équipe de l'Atlético n'a quasiment rien fait. Et on se dit que Simeone a beaucoup plus de problèmes que prévu pour bâtir une nouvelle équipe, un nouvel allant après le départ de joueurs essentiels comme Griezmann, comme Philippe Luis, comme Rodrigo, comme Godin. Voilà, on avait l'impression que ça marchait très bien mais c'est au début de saison, mais c'était l'excitation du début de saison. Alors que là, on est dans un cas de figure où Simeone a du mal à reconstruire son équipe. Et il semble aussi, c'est ça qui est peut-être inquiétant, qu'il y ait un manque de générale de l'équipe et qu'il manque vraiment d'un leader sur le terrain. Il n'y a plus Godin, il n'y a plus Griezmann et ça se sent énormément. Bon. Tout n'est pas mauvais hein, du côté espagnol parce que, et j'en terminerai là-dessus, Valence a fait un très très bon match contre Lille. On sent que cette équipe a certaines lacunes, qu'il y a quand même des blessés importants comme Guedes par exemple, ou comme Carlos Soler, mais il y a un véritable esprit malgré tous les problèmes institutionnels. On sent que les joueurs sont très professionnels et comme c'était le cas la semaine dernière sur la pelouse espagnole, ils ont été menés face à Lille et puis ils retournent la situation. Donc ils ont du caractère, les joueurs de Valence, et qui sait, ils pourraient faire peut-être de belles choses cette saison, alors qu'on annonçait une catastrophe après le limogeage totalement inconcevable, incompréhensible de l'entraîneur Marcelino Cazorla.
Ils ont donc, bien sûr, de la conviction, ils ont le moral, ils ont aussi cette rage de gagner face des fois à l'injustice. Je parle bien entendu de l'Ajax Amsterdam et de ce match fou, complètement fou, qui a opposé l'Ajax Amsterdam à l'équipe de Chelsea à Stamford Bridge. 2 cartons rouges, 8 buts. Une soirée Ligue des Champions comme on les aime, comme on les adore, Aurélien.
Oui, complètement, complètement. C'est vrai que le match a été complètement incroyable avec des retournements de situation, avec l'Ajax qui mène de 3 buts, qui se fait remonter, qui manque d'en prendre un 5e et puis finalement c'est annulé par la VAR. Il y a eu des pénalties, des buts contre leur camp, les expulsions. Enfin bon, c'est vrai que la dramaturgie a été quand même assez forte pour cette rencontre. Mais au final, sur l'ensemble du match... Moi, je ne trouve pas que le match nul soit un résultat qui soit illogique, même si, évidemment, c'est très décevant pour l'Ajax. Mais l'Ajax a pêché par excès d'enthousiasme, parfois excès de confiance aussi, à certains moments, j'ai trouvé. Et le fait que Chelsea revienne est finalement pas... Euh, pas, pas pas complètement contre le sens du jeu. Et cette équipe de Chelsea, c'est une équipe qui est solide mentalement. Et d'ailleurs, Frank Lampard vient d'être nommé entraîneur du mois en Première Ligue parce que il arrive à vraiment tirer de cette équipe qui mélange un petit peu des vétérans et des très jeunes joueurs, et ben des résultats qui sont extrêmement encourageants. Alors ça va être compliqué en Ligue des Champions parce que là, l'Ajax, Chelsea et Valence sont tous les trois à 7 points. Et que Chelsea se déplace à Valence au prochain match, que s'il y a une défaite en territoire espagnol, ça va devenir compliqué pour Chelsea d'aller voir les huitièmes de finale. Mais Chelsea quand même, et je trouve, est une équipe qui est vraiment très prometteuse et qui, à mon avis, si elle continue dans ce sens et si ça se renforce peut-être un peu au mercato, eh ben il y a peut-être moyen de jouer quelque chose en Première Ligue et en Ligue des Champions cette saison.
Et il nous reste deux petites minutes à passer avec toi, mon cher Aurélien Devernois, pour évoquer bien sûr cette 12e journée de la Première Ligue et ce véritable choc. Alors, on a l'habitude de parler assez vite, hein, de dire de véritables tournants. Ce choc entre Liverpool et Manchester City dimanche, Liverpool qui a 6 points d'avance sur les Citizens.
Oui, ça va être très très chaud parce que déjà toutes les rencontres ces derniers mois, ces dernières années entre Liverpool et City ont été très serrées, très compliquées, très engagées et avec... du combat et sur la pelouse et des fois un petit peu en dehors, parce que rappelez-vous, pas cette saison de Ligue des Champions mais la saison d'avant quand Liverpool élimine City en quart de finale, l'arrivée du bus de City à Anfield, ça avait été un peu compliqué, ils avaient pris des briques sur le bus, ça s'était pas très bien passé. Là, les supporters de Liverpool ont dit on va leur refaire un accueil européen, sous-entendu on va leur remettre un gros coup de pression à leur arrivée. Donc déjà ça promet d'être chaud en dehors du stade, ça promet d'être aussi chaud sur le terrain, déjà parce que City arrive quand même amoindri, puisque non seulement il manque Laporte qui est blessé de longue date, mais en plus c'est confirmé, Ederson le gardien ne pourra pas être aligné pour cette rencontre, donc il faudra jouer avec Claudio Bravo qui s'est fait expulser en Ligue des Champions cette semaine, donc c'est pas non plus l'assurance tout risque pour Guardiola. Et de l'autre côté, Liverpool est une équipe qui ne perd pas. C'est pas forcément une équipe qui joue très bien ces dernières semaines, c'est pas une équipe qui est complètement sûre d'elle défensivement. Mais c'est une équipe qui ne perd pas. Et pour City, il va falloir vraiment trouver des solutions, notamment pour contrer les sorties de balles ultra rapides de Liverpool qui se projettent extrêmement rapidement vers le but adverse, pour éviter de se prendre des noyades rapides comme ça a pu arriver à City contre les Reds ces dernières années, de prendre 2-3 buts en 15 minutes. Donc voilà, l'enjeu de la rencontre, ça va être vraiment ça. Après, si City tient, il y a vraiment un coup à jouer à Liverpool, parce qu'encore une fois, ce que je vous disais, Liverpool défensivement, ça grince un peu des fois cette année, et peut-être que City peut complètement relancer le championnat en allant s'imposer à Anfield.
Merci beaucoup Aurélien Devernois, notre correspondant, notre consultant pour le football anglais. On va revenir en Espagne, à Madrid, bien sûr, pour retrouver Fred Hermel. Fred, qui est bien sûr notre consultant et notre correspondant à Madrid, et qui vient de sortir un livre où il raconte son enquête, hein, depuis plus de 18 ans sur Zinedine Zidane. Il le connaît presque par cœur. Dans Zidane, tout simplement, comme l'a intitulé donc ce livre, journaliste et correspondant donc de l'après-match et de l'avant-match, Fred, bien connu de nos auditeurs, revient sur ses 18 ans dans les coulisses du Real Madrid aux côtés de Zinedine Zidane. Fred Hermel qui était ce matin l'invité de Christophe Godino.
Bonjour Frédéric Hermel.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Il y a eu deux événements littéraires cette semaine, la remise du prix Goncourt lundi et la sortie mercredi de votre premier ouvrage, intitulé tout simplement Zidane. Alors Fred, c'est bien plus qu'une biographie classique de la star du football, puisqu'il y a dedans beaucoup de vous-même aussi. Ça aurait presque pu s'appeler Zidane et moi ou Mon Zidane, car c'est aussi un livre très personnel.
Oui, parce que je raconte la grande histoire de Zinedine Zidane à travers nos 18 années ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre, parce que c'est quelqu'un que je fréquente quasiment quotidien depuis l'été 2001. Et donc j'ai pu apprendre à connaître Zidane, j'ai pu apprendre à comprendre Zidane. Et c'est cette connaissance très particulière de la star que je raconte dans ce livre.
Alors ça fait presque 20 ans que vous le côtoyez, vous êtes pratiquement arrivé à Madrid en même temps. Comment s'est passée votre première rencontre et comment surtout on établit une relation de confiance ?
Notre première rencontre a eu lieu en juillet 2001 au centre d'entraînement du Real, à son arrivée, hein, comme nouveau joueur des Merengues. J'étais journaliste, correspondant à Madrid, je me suis présenté. Je lui ai dit, voilà, je travaille pour l'équipe et pour RMC, on va se voir beaucoup. Il m'a dit, oui, on va se voir très souvent. Et c'est comme ça que cette relation est née. D'abord professionnelle, surtout professionnelle pendant 18 ans. Mais le temps a provoqué de nombreuses rencontres, de nombreuses confessions qui sont la base de ce livre, puisque je relate voilà, plein de petites choses, de grandes et petites phrases prononcées par Zidane depuis ses 18 ans. Donc c'est le temps qui a permis de créer cette confiance. Puis le fait qu'on a des parcours qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire qu'on est loin de notre pays tous les deux et nous sommes des exilés et très heureux dans nos professions.
Donc, alors ça a été quoi le déclic qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Ah, le vrai déclic, c'est son départ du Real le 31 mai 2018.
Et vous ne le voyiez pas revenir à l'époque, hein, je me souviens très bien.
Non, ni lui, ni personne, ni même ses plus proches, ni même les gens de son staff. Donc c'est très étonnant, très surprenant qu'il soit revenu. Donc à partir du moment où il quittait le Real Madrid, je me suis dit, bon, voilà, je vais tourner une page de ma carrière aussi, puisque je ne vais plus écrire sur Zidane. Donc je vais faire un livre. Bon, entre-temps, il est revenu, mais je suis très content de l'avoir ici aussi. Mais voilà, c'est l'idée de fermer une page avec Zidane, de terminer un chapitre de ma carrière qui m'a poussé à écrire ce livre, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de matière accumulée pendant 18 ans.
Est-ce que les fans absolus de Zizou vont apprendre des choses en vous lisant ? Vous révélez par exemple que Zidane a failli tout arrêter lorsqu'il est arrivé au Real, débarquant de la Juve ?
Oui, c'est quelque chose qui a été très étonnant, que je savais depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais écrit. Je pense que c'était le moment aussi d'expliquer que même une grande star qui vient d'arriver dans le plus grand club du monde peut avoir des doutes, peut avoir des peurs, peut avoir envie de tout casser, de tout abandonner. Bon, ça n'a duré que quelques heures dans sa tête, mais ça a au moins provoqué une réunion avec le président Pérez qui l'a rassuré. Et puis après, on sait que ça s'est arrangé et qu'il a fait une carrière splendide au Real Madrid. Mais je pense que Zizou a montré à ce moment-là qu'il était aussi un être fait de chair et de sang et qu'on peut gagner des millions, être une star mondiale et avoir des moments de doute. C'est même très sain, c'est même très humain.
Alors Zidane, c'est quasiment un dieu vivant hein, dans le milieu du football et même au-delà, hein, joueur d'exception, entraîneur reconnu. On parle de génie, mais c'est surtout, Zizou, un vrai bosseur, c'est ce qu'on apprend en vous lisant, ce qu'on savait un peu déjà. Par exemple, il n'est pas devenu entraîneur par hasard, il a passé un diplôme très sérieusement, il a franchi les étapes.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est né avec un talent de footballeur extraordinaire, mais derrière l'improvisation, la beauté du jeu, il y avait beaucoup de travail derrière. Et entraîneur encore plus, parce que comme joueur, il s'occupait de lui-même. Comme entraîneur, il a 24 joueurs sous ses ordres. Et c'est quelqu'un qui aurait pu jouer entraîner en première division tout de suite. Il y avait notamment une proposition de Bordeaux. Mais il a voulu, avant tout, faire son apprentissage comme tout à chacun. C'est quelqu'un qui a besoin de regarder les autres, qui a besoin d'écouter les autres, qui a besoin d'apprendre. Et il a commencé en troisième division, souvent contre des équipes sur des terrains de terre, dans des stades avec devant 200, 150 personnes. Voilà, il a commencé sa carrière d'entraîneur depuis tout bas. Il n'a pas commencé sa carrière d'entraîneur depuis son statut de star incontestable, incontesté du football mondial.
Alors on a l'image d'un homme calme, posé, réservé, un peu timide. Mais il sait aussi être sanguin hein, sur un terrain. 12 cartons tout au long de sa carrière, dont le dernier, hein, le fameux coup de boule. Ça en fait quelqu'un, vous le disiez tout à l'heure, de profondément humain ?
Oui. Alors il est dur et c'est un bouquin qui se veut bienveillant par rapport à Zidane, mais qui n'est pas complaisant. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur sa violence qui a été vue plusieurs fois sur le terrain, sur ses colères aussi que je raconte en privé. On s'est parfois disputé, et il s'est disputé avec plein de gens. Et
vous êtes engueulé avec Zidane ?
Oui, plein de fois, bien sûr. Du temps où il était joueur, quoi. Mais bon, après, avec le temps, on a appris à mieux se comprendre, mieux se connaître. Mais Zizou a ce côté un peu sombre en lui. En tout cas, comme joueur, il avait cette violence parce qu'il ne supportait pas l'injustice et il ne savait pas canaliser sa réaction. Voilà, je raconte tout ça et ça fait partie de son histoire. Les cartons rouges sont aussi Zidane.
Alors son avenir à Zinedine Zidane, est-ce qu'il y a une vie après le Real Madrid ? On a beaucoup parlé d'un remplacement de Didier Deschamps. Vous pensez que son bâton de maréchal, ce sera la sélection, l'équipe de France ?
C'est écrit, c'est son avenir. Et je pense que le fameux coup de boule en finale de la Coupe du Monde en 2006, hein, on se souvient tout, la provocation de Materazzi, enfin, son départ trop rapide hein, du terrain. Son chapitre avec l'équipe de France n'est pas terminé. C'est comme s'il devait encore quelque chose à l'équipe de France, même s'il a beaucoup donné. Et c'est évident qu'un jour Zidane sera le sélectionneur des Bleus.
Une dernière question, Frédéric. Est-ce qu'il a lu votre livre ?
Il est en train de le terminer. Je lui ai offert il y a 3 semaines et je l'ai vu hier. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup et qu'il voulait que je l'offre à son père. Donc je pense qu'il n'y a pas plus belle approbation que son papa et qu'il a envie d'un livre dédicacé pour son papa et sa maman.
Voilà donc Fred Hermel qui était l'invité ce matin de Christophe Godino.
Tellement sympa.
Qui aujourd'hui, cet après-midi, mon
invité. Je suis l'invité de Jalal Bouzrara.
Partout. Superbe le livre. Et bravo pour l'interview. Tu as réussi à faire sans lire le livre.
Oui, mais j'en ai lu quelques bonnes feuilles. J'ai lu de très bons articles dans la presse en France.
Exactement.
C'est un excellent client, comme on dit chez nous, Frédéric
Exactement.
Hermel.
Exactement. Et un Frédéric Hermel que nos auditeurs, bien sûr, suivent et écoutent toutes les semaines, les vendredis dans l'avant-match et puis lundi, l'après-match. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'avant-match après le show Fred Hermel lors de la première demi-heure après la première ligue anglaise et ce choc Liverpool-Manchester City qu'on attend avec impatience dimanche. On évoque maintenant bien sûr le football allemand, le football italien, mais on va commencer par notre consultant pour le football africain Hervé Penaud. J'accueille d'abord aussi mon très cher David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, bonsoir à tous.
Alors, bien sûr, on va évoquer aussi un sujet qui te concerne directement. Je reviens vers toi dans un instant, mon cher David. D'abord, direction Paris. Hervé, bonjour. Hervé, est-ce que tu comprends, toi, la non-sélection d'un joueur du calibre d'Amin Harit, l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga, l'un des meilleurs rookies, les meilleurs jeunes au monde aujourd'hui, Hervé?
Bonjour les amis, comment allez-vous? Quel plaisir d'être en votre compagnie. Et alors, bon Jalal, il faut le dire quand même, quelle surprise de ne pas voir Amin Harit dans cette équipe évidemment du Maroc, parce qu'il sort quand même d'une période magnifique avec l'équipe de Schalke. Il a été d'ailleurs meilleur joueur du mois en Allemagne. Il a marqué un but phénoménal récemment, et surtout c'est ce qu'on appelle un impact player, c'est-à-dire celui qui peut changer le cours d'un match. Mais là je crois que coach Vahid, comme vous le connaissez, il a décidé à un moment de gérer aussi en fonction des tempéraments, de la manière dont les joueurs se comportent dans le groupe. Et je pense qu'il y a dû avoir quelques petites choses, parce qu'il n'y a aucune raison sinon qu'Amin Harit ne soit pas dans l'équipe nationale. C'est certainement à un moment Vahid qui s'est dit il faut aller donner un peu plus que ça sur un terrain et surtout se comporter de manière très 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 professionnelle. Et peut-être qu'il a ressenti des petites choses. Je sais qu'Hervé Renard m'avait déjà expliqué que des fois, quand Amin Harit, c'est quelqu'un qui veut jouer, donc quand il ne joue pas, il se sent un petit peu plus mal dans sa peau, et c'est peut-être parfois un petit peu plus compliqué à gérer. Et là, d'une certaine manière, c'est un message qui est envoyé aux joueurs, mais attention, il ne faut pas non plus se priver de ses meilleurs joueurs, surtout en cette période-là. Alors, Amdallah, c'est encore un autre débat, parce qu'on sait que ça avait posé quand même beaucoup de problèmes dans le groupe. Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait la sensation, avec les déclarations des uns et des autres, qu'il pourrait être rappelé dans le groupe, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, donc c'est une petite surprise, mais je pense que c'est un moyen pour coach Vahid de dire maintenant, vous voyez quelle direction je veux prendre, je ne veux aucune tête qui dépasse d'une certaine manière. Alors attention, c'est à double tranchant puisque les résultats n'ont pas été bons depuis le début, donc il va falloir voir ce que ça va donner pour ces matchs qualificatifs. Mais il y a de la pression déjà sur Vahid Elilodzic, et ne pas l'avoir pris, ne pas avoir pris le joueur en forme du moment, avec Hakimi évidemment, c'est quand même une prise de risque, mais qui n'est pas surprenante quand on connaît le personnage.
C'est pas surprenant effectivement Hervé, quand on connaît le personnage, mais ça surprend beaucoup de monde j'imagine, et du côté de l'Allemagne, David.
Bien sûr, Jalal, c'est surprenant, mais je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Hervé. Il y a forcément du relationnel là derrière, en arrière-plan. Il y a forcément peut-être des complications ou des difficultés dans la relation, dans le côté social. dans le côté interpersonnel, peut-être de l'entraîneur ou du sélectionneur avec son joueur, parce que vraiment, sur le plan sportif, c'est le petit éclairage très rapide que je peux vous donner, et vous le savez, même vu de loin. Amin Harit a été meilleur joueur de ce championnat de Bundesliga en septembre. Il a continué de confirmer au mois d'octobre. Il est toujours décisif pour son équipe de Schalke. Et pourquoi les bleus rois, comme on les appelle, sont tout en haut du championnat d'Allemagne, sont très bien classés et très performants cette année, c'est largement grâce à l'apport de ce joueur. Donc sur le plan sportif, ça ne se justifie pas. Il y a donc forcément quelque chose derrière, des choses que Hervé a tout à fait bien expliquées. Je pense que c'est la raison majeure pour laquelle Vahid a boudé son joueur.
Voilà donc, mon cher David, pour ce qui est, bien entendu, de cette affaire, en tout cas, petite affaire ici, la non-convocation d'Amin Harit. Et on attend, bien entendu, les explications de l'intéressé. Je ne parle pas d'Amin Harit qui a fait une petite réaction sur Twitter, un lol avec le drapeau du Maroc et voilà. Et puis on attend maintenant la réaction. Il faut qu'il réponde, il faut qu'il nous réponde, Wahid Halilhodžić, pourquoi il a choisi de se passer des services de l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui en championnat d'Allemagne, tout de même, et surtout un jeune ultra prometteur, celui qui devrait récupérer les clés du camion, en tout cas au niveau de cette équipe du Maroc. Revenons à la Ligue des Champions, David. Ça y est, c'est fait. Le Bayern, c'est évident quand même, en huitième de finale, le Bayern qui sent vraiment briller et il a assuré l'essentiel.
Oui, exactement. En revenant à du jeu simple et à des fondamentaux de football simple, Jalal, avec l'entraîneur intérimaire Hansi Flick, qui était l'adjoint déjà de Kovac. Kovac a été écarté. Hansi Flick a pris l'intérim pour deux matchs officiellement et plus si affinité, mais en tout cas pour deux matchs. Ce match contre l'Olympiakos en Ligue des Champions, puis le match qui vient, le classique en championnat contre Dortmund ce samedi après-midi. Et Flick avait annoncé à ses joueurs, on va reprendre les fondamentaux, on va serrer un peu la défense, on va défendre en avançant, on va aller gêner l'adversaire par un pressing haut et par des efforts de course. Ses joueurs l'ont suivi à l'occasion de ce match. Ça n'a pas été brillant. Il y a eu longtemps 0-0. Ça s'est débloqué en fin de rencontre. Personne n'est dupe sur le niveau actuel, cette espèce de convalescence. Mais il y avait les joueurs suffisamment armés en attaque pour gagner quand même ce match tranquillement côté Bayern. Le Bayern a largement dominé son adversaire. C'est pas un Bayern vraiment qui brille en ce moment, mais on s'est quelque part rassuré avec le nouvel entraîneur. On a réussi à faire ce qu'il avait demandé et c'était tout ce qui était nécessaire. Une victoire. Le retour à quelques fondamentaux pour se rassurer. Et maintenant, bien sûr, on va voir ce que ça va donner contre Dortmund ce samedi.
Et avant d'évoquer, bien sûr, ce choc de la Bundesliga, le Bayern contre Dortmund samedi, parlons justement du Borussia Dortmund. On a beaucoup parlé lors de la première partie de l'émission du show Hakim Ziyech. Comment décrire aussi la prestation stratosphérique de l'international marocain du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi.
Ah ben c'est magnifique. Alors là, vraiment, il nous a enchantés sur ce match. Peut-être que Lucien Favre, qui est un fin tacticien, avait identifié une faiblesse de l'Inter dans ce match qui a finalement été remporté 3-2 par Dortmund après avoir été mené 2-0. Peut-être l'identification d'une faiblesse par Lucien Favre, c'était que sur les côtés, sur les flancs, la défense interiste n'était peut-être pas très performante et n'était peut-être pas très sûre. Et il l'a exploité magnifiquement en incitant Achraf Hakimi, qui est déjà un joueur qui va vers l'avant, à s'engouffrer dans son couloir. Et il nous a tout fait, toute la panoplie offensive, déboulé dans le couloir, passe décisive, but, présence aussi dans l'axe. Il a su se recentrer quand c'était nécessaire pour apporter le surnombre. Vraiment, à mon sens, Ce match a été merveilleux parce que ça a été un long combat et un long redressement de Dortmund après avoir été mené de 2 buts. Mais c'est surtout la grâce d'Achraf Hakimi qui a permis cette victoire à l'arrivée. Il a été le joueur du match et il a été vraiment très au-dessus de ses coéquipiers dans ce match de Ligue des Champions. C'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est un match qui fera date, très important pour la saison de Dortmund et important aussi pour confirmer le vrai niveau de ce joueur qui est vraiment magique.
On va aller du côté de l'Italie, reste avec nous bien entendu David, on va du côté de Turin pour retrouver celui qui me donne à chaque fois des sueurs froides, mon cher Simone Rovera, l'Italien de service que je dois appeler 15 fois avant d'avoir la chance de profiter de ces magnifiques analyses. Salut, ciao ciao.
Ciao, buonasera, bonsoir. C'était pas 15, c'était 14.
Écoute, toi, t'es italien, je suis méditerranéen aussi, donc l'exagération, on connaît un petit peu ça. Parle-moi, bien entendu, mon cher Simone Rovera, des clubs italiens. Je le disais tout à l'heure, le Bayern qualifié. Qualification également de la Juventus de Turin. Plutôt tranquille.
Oui, on peut dire aussi que c'est le seul rayure de soleil dans cette semaine européenne, la Juve qui se qualifie en toute dernière fin de rencontre sur la dernière action avec un coup de génie de Douglas Costa, ces joueurs qui malheureusement n'est pas toujours disponible. Imaginez, la saison dernière, que 17 matchs en Serie A. Donc, c'est un joueur vraiment dont les blessures ont fait plus l'histoire que les performances. Et quand même, la qualification est bien sûr méritée dans son groupe où la Juve dominait de loin, même face à un Atlético diminué, un Leverkusen qui n'a pas répondu présent pour l'instant. Donc, la Juve arrive pour la première fois sur les dernières saisons avec 2 journées d'avance en 8e des finales, chose que ni Antonio Conte ni Max Allegri étaient capables de faire. Maurizio Sarri, oui. Donc, c'est déjà un premier record, une première victoire pour l'entraîneur italien, les nouveaux arrivés. Mais c'est un Juve qui, pour l'instant, n'a pas convaincu. Et pour moi, il y a un joueur qui, depuis les débuts de la saison, marque des buts, mais n'est pas toujours performant. Il l'a vu surtout dans ses déplacements à Moscou. Et c'est Cristiano Ronaldo, qui je vois un peu fatigué, pas toujours au top, pas toujours décisive, sauf sur des pénalties qui lui-même est très bon à se procurer, mais qui, imaginez, est fait sortir par Maurizio Sarri quand il y avait encore une dizaine de minutes à jouer. Et c'est presque historique parce que c'était depuis 2014 qu'en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo ne quittait pas la pelouse avant les 85e. Donc c'est un Juve qui se découvre plus forte, même sans Cristiano Ronaldo solide. Mais c'est un Juve qui, pour moi, a toujours plus le visage de Max Allegri que de Maurizio Sarri, c'est-à-dire la transition est longue et difficile et n'est pas encore arrivée.
L'actu italienne est aussi marquée, bien entendu, par cette véritable mutinerie à Naples.
Bah, c'est quelque chose de presque jamais vu dans le monde du football, ou surtout de jamais vu dans le monde du football italien et dans les très hauts niveaux. La situation est très simple à expliquer. Le Naples ne fait pas une super saison. Il a déjà un retard important de l'Inter et la Juve, 10 points et 11 points du leader en championnat. Les derniers matchs importants n'ont pas donné des bonnes prestations. Les matchs nuls face à l'Atalanta à domicile, défaite à la Roma, match nul à domicile face à Salzbourg. Et dans ces climats tendus, lundi matin, les présidents de Laurentiis avaient décidé d'imposer une mise à verte jusqu'à la fin de la semaine, donc en ritiro, l'obligation de rester tous ensemble, donc ne pas voir les familles pour les joueurs, et dormir au centre technique ou dans l'hôtel à côté. Et ça, il a annoncé avec une interview sur la radio officielle du club, sans même en parler à l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'entraîneur n'a pas bien pris ça, il a communiqué en conférence de presse qu'il n'était pas d'accord du tout avec la décision du club. Et après ces matchs nuls à domicile face à Salzbourg, qui est quand même à niveau comptable un bon résultat, les joueurs ont décidé de se refuser de monter sur le bus, d'aller à l'hôtel et donc de rentrer chez eux contre l'avis du club. Vraiment presque une grève, une mutinerie qui aura des lourdes conséquences parce que le club a communiqué de vouloir protéger ses droits à niveau du patrimoine, d'image et disciplinaire, donc des faire partir une action légale contre les joueurs. Et rien sait aujourd'hui quel va être l'avenir, qui va être les joueurs, s'il y a un joueur qui sera plus ciblé que les autres. On sait bien qu'il y a au moins 4 joueurs qui étaient à l'origine de cette grève, on peut dire, de cette moutinerie, et sont insignés Alan, Caléon et Koulibaly, c'est-à-dire les vrais pouvoirs forts du vestiaire qui auraient pris la parole contre les fils du président qui étaient rentrés dans le vestiaire en colère. Et les joueurs ont dit rapidement, nous on rentre à la maison et c'est pas notre problème si tu veux faire la mise ouverte jusqu'à la fin de la semaine.
Les joueurs qui se rebellent contre les dirigeants à Naples, un entraîneur lui qui attaque directement ses dirigeants de l'Inter de Milan, c'est Antonio Conte.
Oui, parce que si on a raconté la belle histoire, la belle semaine, les bons matchs d'Achraf Hakimi, il y a un autre côté de l'histoire, c'est-à-dire comment l'Inter est implosé en deuxième mi-temps à la faute de la fatigue, d'un effectif très court, comme je dis depuis le début de la saison, et une Inter qui ne peut jamais tourner vraiment ses joueurs parce que les bandes de touche n'ont pas des solutions intéressantes Antonio Conte. Qu'est-ce qu'il a fait l'entraîneur? On connaît un peu son caractère, il ne cache jamais ses vérités, il est très prêt à parler en conférence de presse ou devant les médias, et à la fin du match, il a dit très clairement, on a fait des erreurs de programmation, on m'a raconté des choses en début de saison qui n'étaient pas valables, je pense qu'il parle du niveau de certains joueurs, comme Borja Valero, comme Politano, qui joue jamais, ou des joueurs qui sont souvent blessés, comme Vecino ou Ranocchia. Et il a dit, on a fait des erreurs, en faisant comprendre qu'il peut pas avoir l'ambition de lutter au plus haut niveau avec des joueurs sans expérience. Il a même fait des noms. Il a dit, je cherche de l'expérience. Je peux pas aller la trouver à un Barella qui arrive du Cagliari ou Sensi qui arrive de Sassuolo. C'est pas une attaque à ses joueurs. C'est une attaque à ses dirigeants. Aujourd'hui, Conte a fait comprendre que lui, il attaque personne, mais veut seulement mettre les choses au clair. La vérité est une et seule. Aujourd'hui, Antonio Conte, c'est l'homme fort de l'Inter. Il peut tout prétendre à ses dirigeants, parce que si l'Inter aujourd'hui peut lutter pour les titres, elle est très proche de la Juve, c'est pour le travail d'Antonio Conte. Il a décidé de mettre encore une fois les pieds sur l'accélérateur pour réveiller les esprits, parce que l'Inter aujourd'hui est très loin de la Juve en championnat à niveau d'effectif, mais à niveau de points, c'est seulement un point. Et donc, Antonio Conte veut viser plus haut, mais a besoin de l'arrivée de quelques bons joueurs en janvier. On parle beaucoup de l'arrivée des Giroud, on parle beaucoup de l'arrivée des Vidal, et ça peut être dans des joueurs avec une forte personnalité, une grosse expérience et une qualité importante que l'Inter peut trouver les ressources nécessaires pour continuer cette belle saison.
On parle même, bien entendu, de l'arrivée d'un certain Zlatan Ibrahimovic au Milan AC.
On parle de Zlatan Ibrahimovic un peu partout. Imaginez à Milan AC, aussi parce que c'est sorti une déclaration du commissionnaire, du président de la Ligue américaine qui aurait dévoilé une arrivée future d'Ibrahimovic Milan. Le club n'a pas confirmé, au contraire, il a démenti cette info. Mais surtout, on sait très bien qu'il y a un club en Italie qui rêve de Zlatan Ibrahimovic, qui est Bologne, où Sinisa Mihajlovic continue à appeler au quotidien presque Ibra pour les convaincre. Et Zlatan est très séduit de finir son aventure dans les pays qu'il a plus aimé et qui lui a plus aimé, l'Italie. On a parlé souvent aussi de Naples pour Zlatan. Aujourd'hui, la situation à Naples fait en sorte que c'est un peu compliqué d'imaginer l'arrivée d'Ibra dans une vestiaire déjà un peu en difficulté, on peut dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a mis même à niveau de l'Inter, selon certaines rumeurs de Mercato. Mais c'est vrai qu'Ibra, c'est un joueur qui fait encore rêver les supporters. Et je suis convaincu qu'en janvier, on les verra débarquer dans notre championnat.
On va aller du côté de l'Allemagne, les amis. Bayern de Munich, Borussia Dortmund. Qui prendra le bon tournant dans le classiqueur, David?
Ah oui, c'est vraiment la question du week-end, Jalal, qui va écraser le reste, parce qu'il y a pourtant d'autres très bons matchs et très intéressants. Fribourg-Francfort, Wolfsburg-Leverkusen, le Gladbach qui va recevoir le Werder. On est intéressé par cette Bundesliga très serrée dans le haut du classement, mais c'est vrai que c'est ce match-là qui va écraser le reste. Et Leon Goretzka, médiatiquement je parle, hein, bien sûr, Leon Goretzka, joueur du Bayern, a donné un peu le ton aujourd'hui en disant « on va être capable, côté Bayern, de hausser notre niveau pour ce match ». Ça veut dire qu'il prend date et qu'il envoie un signal en direction de Dortmund en disant « Vous allez voir les gars, ça fait 7 fois d'affilée qu'on est champion, on va être capable de vous maîtriser encore cette fois-ci ». Et c'est assez alléchant effectivement, avec ce nouvel entraîneur Hansi Flick qui a l'air d'être apprécié des joueurs, et le discours en tout cas de l'entraîneur correspond au discours des joueurs, ce qui est nouveau cette saison, parce qu'avec Kovac, le discours était vraiment différent entre l'entraîneur et les joueurs. Donc il y a une forme d'adhésion pour l'instant. Et puis de l'autre côté, à Dortmund, on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, on a gagné le match important contre l'Inter de Simone, et forcément ça va donner beaucoup d'allant à l'équipe, beaucoup de confiance, et des joueurs comme Paco Alcacer qui est entré et qui a été décisif au bout de quelques secondes contre l'Inter, va piaffer d'impatience pour essayer de marquer le coup aussi contre le Bayern. Voilà, j'en ai cité deux, Goretzka côté rouge, Paco Alcacer côté noir et jaune. Vraiment, on a un match là important, un sommet du week-end dans le championnat européen, et je ne veux pas faire de pronostic parce qu'il faut vraiment s'attendre à tout dans un match comme ça.
Il faut s'attendre à tout dans une confrontation entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund, et on suivra de très près là aussi bien sûr la prestation du Marocain Achraf Hakimi. Merci beaucoup David.
Merci Jalal.
Merci beaucoup Simone Rovera.
C'était un plaisir, c'était un plaisir.
Et on
va parler de Juve Milan aussi, hein, ce week-end.
Bah vas-y, lundi, on va justement, la Juve contre le Milan AC.
Bah, c'était les plus grands matchs des années 90. Aujourd'hui, c'est un match un peu pour les nostalgiques. Mais Milan arrive avec l'obligation de faire résultat, parce que la situation est très compliquée. La Juventus, avec une longue déplacement à Moscou, dans les froids, la pluie, et certains joueurs qui sont pas au top physiquement. C'est peut-être la surprise inattendue du week-end. Ça peut arriver par là. Tout le monde pense à une large victoire de la Juve. Mais si Milan peut trouver dans un match les ressources nécessaires pour faire une surprise, c'est peut-être là. Et attention, parce qu'il y a un homme qui a envie, par contre, de se prendre en revanche énorme face au Milan AC. Vous savez bien, c'est Gonzalo Higuain, presque humilié la saison dernière dans son passage à Milan, qu'il avait fait considérer comme un ancien joueur, presque un pré-retraité. Et aujourd'hui, protagoniste indiscutable dans la Juve de Cristiano, à côté de Cristiano. Et s'il y a un homme qui, par contre, aura envie de tout donner, c'est vraiment Gonzalo Higuain. Donc, c'est un match à pas rater ce week-end. C'est un choc désopposé, mais c'est toujours un choc avec un charme incroyable.
Merci beaucoup, Simone Rivera. C'est la fin de cette édition de l'avant-match. Mille merci d'avoir suivi. Excellente soirée.